L'heure de retrouver le journal. Alexis Demeyer, bonsoir.
Bonsoir. Vers l'organisation d'un troisième scrutin législatif en moins d'un an en Israël. Comme c'était à prévoir, le centriste Benny Gantz n'est pas parvenu à former un gouvernement. Le mois dernier, c'était son rival Benjamin Netanyahou qui avait lui aussi échoué à former une coalition. Le plan d'urgence du gouvernement pour l'hôpital public peine à convaincre les principaux intéressés. Les intersyndicales des personnels hospitaliers se disent déçus et souhaitent continuer la mobilisation. 9 ans de prison pour Anne Diana Klein, une condamnation pour terrorisme. En 2015, cette quadragénaire avait tenté de rejoindre la Syrie afin d'y retrouver notamment ses frères Fabien et Jean-Michel Klein, deux figures du groupe État islamique. Donald Trump dénonce une nouvelle fois une chasse aux sorcières. Le président américain ne digère pas l'actuelle enquête en destitution menée au Congrès. Un ancien proche de Donald Trump a livré cet après-midi à Washington un témoignage compromettant.
France Inter.
Les électeurs israéliens vont sans doute devoir prochainement retourner dans les isoloirs. Le centriste Benny Gantz a échoué ce soir à former un gouvernement de coalition. Le président israélien Reuven Rivlin l'avait mandaté il y a quelques semaines, juste après un autre échec à former un gouvernement, cette fois-ci venant du premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. Il faut dire que lors des législatives du mois de septembre dernier, les partis respectifs de Benny Gantz et de Benjamin Netanyahou étaient arrivés au coude à coude, Frédéric Mettezo.
Les chiffres sont implacables, Benny Gantz pas plus que Benjamin Netanyahou n'a de majorité absolue et donc, après 4 semaines de consultation, il a aussi échoué. Le député centriste souhaitait gouverner avec la droite mais sans Netanyahou qu'il juge démagogique et clivant, mais la droite et ses alliés religieux et nationalistes ont fait bloc derrière le Premier ministre. Gantz a aussi tenté de former une coalition avec la gauche, soutenue par les députés arabes et le nationaliste Lieberman, mais ce dernier a refusé cette cohabitation avec les élus arabes. Ce soir, Benny Gantz a eu des propos très durs contre Benjamin Netanyahou. Il dénonce ses intoxications incompatibles avec la morale juive. Il l'accuse d'avoir déjà incité à la violence dans le passé. Une allusion très claire aux manifestations contre Yitzhak Rabin avant son assassinat en 1995, manifestation auxquelles Netanyahou avait participé. C'est dans ce climat délétère qu'il reste 3 semaines pour résoudre la crise politique. Sinon, les Israéliens retourneront aux urnes en mars 2020. Ce sera le troisième scrutin en 11 mois. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ont dévoilé ce mercredi leur plan d'urgence pour le monde hospitalier. Parmi les mesures annoncées, une prime annuelle de 800 euros net pour les infirmiers et les aides-soignants ayant les revenus les plus modestes et vivant à Paris et en proche banlieue. Une rallonge d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour les budgets des hôpitaux, dont 300 millions dès l'an prochain. Ou encore la reprise par l'État d'un tiers de la dette des hôpitaux. Le gouvernement évoque des moyens considérables, mais cela ne semble pas suffisant pour faire retomber la fièvre dans les services hospitaliers, comme a pu le constater Alain Gastal en reportage à l'hôpital Purpan de Toulouse.
Le bâtiment des urgences de l'hôpital Purpan est quasiment neuf. Il date de moins de 4 ans. Mais déjà, on y est à l'étroit. Il a fallu supprimer des box individuelles pour gagner un petit peu de place. Et pour la même raison, des secrétaires ont été relégués dans des pièces minuscules et aveugles où elles se relaient par demi-journée. Et pour faire baisser la tension, désormais, les familles n'ont plus le droit d'accompagner les malades au-delà de la salle d'attente. Jean-Pierre est infirmier.
Il peut y avoir des patients dans le couloir, avec du coup une agressivité des patients et des familles. C'est pour ça que là, depuis quelques temps, on interdit les familles au sein des urgences de Purpan.
Le plan précédent avait accordé 3 postes de plus au service, mais hier soir, il y avait quand même 120 malades en salle d'attente. Ce nouveau plan suffira-t-il à calmer la colère et à satisfaire des besoins toujours croissants? Pas sûr du tout pour Benoît, qui est infirmier et délégué du syndicat Sud.
On attendait des annonces sur des effectifs, sur de l'emploi, sur des moyens en plus. Alors, il y en a, mais est-ce que ça sera suffisant? On ne le sait pas. Des garanties sur la non-fermeture de lits. L'hôpital de Toulouse en ferme toujours à l'heure actuelle. Je suis pas sûr que le fait que la population toulousaine s'agrandisse, que la région soit dynamique, ça nous permette de fermer des lits.
Et des assemblées générales devraient être organisées dans les prochains jours. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Une action FDJ finalement fixée à 19,90 €. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé en fin d'après-midi le prix de l'action française des jeux à quelques heures maintenant de l'introduction en bourse de cette entreprise dont l'exécutif a souhaité la privatisation. Privatisation qui devrait rapporter à l'État 2 milliards d'euros.
France Inter.
Alexis de Meyer.
9 ans de prison pour la sœur aînée des frères Klein avec une période de sûreté des deux tiers. Décision ce soir du tribunal correctionnel de Paris. Anne Diana Klein, 44 ans, est reconnue coupable d'association de malfaiteurs à visée terroriste. En août 2015, elle avait tenté avec ses 4 enfants de rejoindre les zones tenues par le groupe État islamique en Syrie où se trouvait déjà une partie de sa famille et notamment ses deux frères Fabien et Jean-Michel Klein, ceux-là même qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre, Sophie Parmentier.
Oui, avec son mari Mohamed Amri, un Tunisien à l'origine de la conversion à l'islam de toute la famille Klein, Anne Diana Klein, la grande sœur aux longs cheveux blonds, a tenté d'atteindre en voiture le califat de Daesh en août 2015. Elle voulait rejoindre ses deux filles aînées, Jennifer et Fanny, et ses frères Fabien et Jean-Michel, et elle a tenté d'emmener avec elle à Raqqa ses 4 plus jeunes enfants, alors âgés de 8 à 15 ans. Le voyage a été avorté, ils ont été refoulés à plusieurs frontières, mais Anne Diana Klein et son mari ont persévéré, se terrant pendant 8 mois en Bulgarie dans l'espoir de réussir à passer un jour en Syrie. C'était un projet réfléchi, mais comment croire qu'il n'était pas connecté aux attentats terroristes de l'État islamique, clame la procureure qui jure qu'elle ne fait pas aujourd'hui le procès des frères Klein. Mais la magistrate dit qu'elle ne peut ignorer l'histoire de cette famille, le clan Klein, 3 générations de djihadistes, dit-elle. La procureure estime ce couple encore dangereux et pas assez sincère.
Sophie Parmentier du service Enquête Justice de France Inter. Cette chasse aux sorcières doit maintenant cesser, c'est tellement nocif pour notre pays. Ce sont les mots de Donald Trump ce soir à Washington, quelques heures après un témoignage très embarrassant pour lui devant le Congrès. Gordon Sondland, l'ambassadeur des États-Unis pour l'Union européenne, a directement impliqué le président américain dans l'affaire qui est à l'origine de la procédure en destitution. Gordon Sondland a affirmé devant les parlementaires américains que Donald Trump a bien conditionner une rencontre bilatérale avec le président ukrainien au lancement par Kiev d'une enquête visant Joe Biden, le rival démocrate de Donald Trump. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques un quid pro quo, Loïc Loury.
C'est la grande question de cette affaire ukrainienne. Y a-t-il eu quid pro quo entre Washington et Kiev? La Maison-Blanche, en d'autres termes, a-t-elle retenu des centaines de millions de dollars en échange d'une enquête sur le fils de Joe Biden? Sur ce point, Gordon Sondland ne peut pas être plus clair.
Je sais que des membres de cette commission réduisent régulièrement ces affaires compliquées à une simple question. Y a-t-il eu quid pro quo? La réponse est oui.
À la tête de cette opération, Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, et cela, dit Sondland, à la demande expresse du président américain. Pour autant, l'ambassadeur conteste toute idée de réseau diplomatique parallèle. Tout le monde, dit-il, le président, le vice-président, le secrétaire d'État étaient dans la confidence.
Tout le monde était dans la boucle. Ce n'était pas un secret, tout le monde était informé par email à la date du 19 juillet.
Pourquoi alors avoir exécuté de tels ordres? Sondland reconnaît qu'il n'avait pas confiance en Rudy Giuliani.
On aurait perdu une opportunité très importante de cimenter les relations entre l'Ukraine et les États-Unis, alors on a suivi les ordres du président.
Un témoin de première main, le seul dans cette procédure d'impeachment, accablant pour Donald Trump, mais peut-être trop juste pour renverser l'opinion. New York, Loïc Loury, France Inter.
Une affaire décidément rocambolesque à Malte, 2 ans après l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia. Un puissant homme d'affaires a été arrêté aujourd'hui. Il tentait de fuir l'île de Malte à bord de son yacht. La journaliste tuée dans l'explosion de sa voiture piégée enquêtait sur une société gérée par cet homme d'affaires en lien avec le Premier ministre maltais, Louise Baudet.
Il s'appelle Jürgen Fenech, c'est l'un des propriétaires d'Electrogas, une compagnie qui a fait affaire il y a 6 ans avec l'État maltais pour construire une des 2 principales centrales électriques de l'archipel, un contrat de plusieurs millions d'euros. Or, cet homme possède une autre société, 17 Black, basée à Dubaï, société suspectée d'avoir versé de grosses sommes d'argent à 2 très proches de l'actuel Premier ministre Joseph Muscat, en l'occurrence son chef de cabinet et le ministre de l'énergie de l'époque, devenu depuis ministre du Tourisme. Et c'est précisément sur ces pots de vin que travaillait Daphne Caruana Galizia. L'enquête sur son assassinat, à laquelle participe Interpol, a connu une avancée spectaculaire la semaine dernière avec l'arrestation d'un intermédiaire qui a promis de témoigner en échange de son immunité. Affaire très très embarrassante pour Joseph Muscat, personnellement mis en cause par les proches de la journaliste et l'opposition maltaise qui réclame au minimum la démission de son toujours chef de cabinet et du ministre du Tourisme. Lui rétorque qu'il n'y a aucune preuve de lien entre entre ces deux politiciens et le meurtre de Daphne Caruana Galizia.
Louise Baudet. À Londres, le prince Andrew décide de mettre fin à ses engagements publics. Il est devenu clair que mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenus une perturbation majeure pour le travail de ma famille, déclare ce soir le frère cadet du prince Charles. Andrew, second fils de la reine Elisabeth II, est embourbé dans une polémique sur ses liens avec l'homme d'affaires américain, poursuivi pour exploitation sexuelle de mineurs et qui s'est suicidé en prison aux États-Unis l'été dernier. Le film J'accuse de Roman Polanski est en tête du box-office français après une semaine d'exploitation. Plus de 500 000 spectateurs sont allés voir le film consacré à l'affaire Dreyfus au point d'en faire le meilleur démarrage de la carrière du réalisateur. J'accuse a pourtant vu sa promotion fortement perturbée pour cause de nouvelles accusations de viol visant Roman Polanski. Il y a deux semaines, Valentine Monnier, une photographe française, avait révélé avoir été violée en 1975 alors qu'elle avait 18 ans. En Seine-Saint-Denis, la collectivité Est Ensemble, qui regroupe 9 communes du département, a songé à déprogrammer le film dans 6 cinémas avant de finalement renoncer, Rémi Brancato.
Opération rétro-pédalage. Hier soir au Conseil de territoire, 7 à 8 élus demandent la déprogrammation du film de Roman Polanski des 6 cinémas publics. Gérard Combe, le président socialiste, accepte, mais ce matin, revirement, il appelle toujours au boycott, mais pas question de déprogrammer et de passer pour un censeur.
Je refuse catégoriquement de me retrouver sur une liste de noms aux côtés des maires Front National. C'était la dérive ouverte à une position de censure et je ne veux pas que les élus censurent la question de la liberté artistique.
Évidemment, les responsables des cinémas sont montés au créneau. Stéphane Goudet, directeur artistique du Méliès à Montreuil, dénonce une tentative de censure.
Ça crée un précédent, ça ouvre littéralement la boîte de Pandore et on se dit, bon alors voilà, quels sont les suivants sur la liste? Et évidemment, cette logique-là devient une logique extrêmement dangereuse et liberticide pour moi.
Ce matin, le président du territoire a donc reçu les directeurs de cinéma. Il demande l'organisation systématique d'échanges sur les violences contre les femmes avec les projections du film. Sylvie Badou, adjointe à la maire de Bondy, assume pour autant d'avoir défendu la déprogrammation.
Ça a été une stratégie d'action pour évidemment aborder ce sujet. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de ces violences aux femmes. Et si je l'avais pas fait, certaines villes, évidemment, comme à Montreuil, ils ont eu un débat en amont. Mais je pense que dans d'autres villes, ça ne se serait pas fait.
Il sera compliqué d'organiser, on l'imagine, un échange à chaque séance à Montreuil. Un débat intitulé « Choisir de voir ou non le dernier Polanski » était déjà prévu au cinéma.
Rémi Brancato. Une journée spéciale consacrée à l'enfance ce mercredi sur France Inter à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Une opération en partenariat avec l'UNICEF et le média en ligne Combini. Ce matin, 250 jeunes étaient réunis à Paris sous la coupole du Panthéon pour réclamer que leurs droits soient enfin respectés. L'occasion pour ces enfants, Faustine Calmel, de s'exprimer, ce qui n'est pas forcément si fréquent pour eux.
Tous les enfants, garçons ou filles, ont ces droits. Peu importe.
Les droits déclamés un à un avec un accent porté à la voix des plus jeunes.
Pour moi, c'est l'article 12, donc celui que j'ai lu. On doit donner librement notre avis et les adultes doivent nous écouter et nous prendre au sérieux.
Et cela, c'est très loin de ce que raconte Noël en classe de 4e.
Pour moi, j'ai pas le droit à la parole et ça m'embête. J'aime m'exprimer et avec mon père. Si peut-être je dois justifier quelque chose, il refuse. C'est comme ça, point final.
Même sentiment de parole étouffée pour Lucie.
On ne nous demande pas assez notre avis, justement. Pour tout ce qui est politique, par exemple, pour le gouvernement de notre pays, on n'a pas l'avis des enfants alors qu'on représente une énorme partie du pays.
Et que surtout, défend Anna, ils ont des tas d'idées à apporter au débat.
Notre optimisme, notre manière de voir vers l'avenir. Donc on arrive avec une volonté qui nous est propre et tout plein d'idées qui peut-être ne viendraient pas aux adultes qui sont bloqués dans la réalité.
Pour renforcer cette parole, les associations demandent notamment la multiplication des conseils d'enfants dans les mairies et une réforme du Parlement des enfants qui leur permet d'élaborer chaque année une proposition de loi.
Un reportage signé Faustine Calmel. Le temps de demain jeudi à 23h14 sur la première radio de France.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt. Le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
La météo, c'est avec Sébastien Léas.
Une perturbation à bord de la façade ouest et va apporter un temps pluvieux pour demain entre le Nord-Aquitaine, la Bretagne et la Basse-Normandie. L'après-midi, ces pluies deviendront plus intermittentes en se décalant entre la Normandie et le Limousin et un temps plus variable avec des passages d'averses localement orageuses va prendre le relais entre la Bretagne et la Gironde. Dans le même temps, les conditions vont devenir de plus en plus agitées entre le Languedoc et la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des pluies parfois orageuses et de la neige en montagne. Cet épisode méditerranéen va d'ailleurs durer jusqu'à samedi apportant beaucoup de pluie et également de la neige abondante sur les Alpes du Sud. Sur le reste du pays, le temps sera calme. En matinée, il faudra parfois composer avec de nombreuses grisailles avant de retrouver un temps plus ensoleillé. L'après-midi, le ciel sera généralement bien voilé. Les températures seront en légère hausse, variant entre 6 et 16 degrés.